Voilà, bienvenue à tous et peut-être à ceux qui viennent pour la première fois. N'inquiétez pas, vous n'avez pas pris la chaise de quelqu'un d'autre. Sentez-vous à l'aise. On va s'arrêter sur un épisode de la vie de David ce matin, dans le deuxième livre de Samuel. Deuxième livre de Samuel, qui j'espère va vous amener à réagir, comme c'était le cas pour David. On va lire le chapitre parce que pas sûr que tout le monde le connaisse. Donc on va faire cette lecture dans 2 Samuel chapitre 6. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzo et Akjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Akjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. » Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun du pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs comme se découvre un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel. Sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Oh, oh, oh. Ça vous laisse quelle impression, ce genre de lecture ? Vous avez le moral ? Des choses assez étonnantes, hein ? À partir de ce récit, je voudrais parler d'un couple. Un couple idéal. Alors, vous allez dire, bah, c'est pas Michael et David, hein. C'est pas le couple idéal. Je parle pas de ce genre de couple. On voit les deux ici dans ce texte, côte à côte, et comme très souvent dans l'Ancien Testament. Très souvent, quand vous voyez l'un, vous voyez l'autre. Vous savez que c'est comme les vieux couples qui ne se séparent plus. Quand vous en voyez un, vous en voyez l'autre. C'était le cas avec mes parents. Quand vous voyez un membre de ce couple, vous voyez l'autre qui est pas loin derrière. Ben, c'est le cas avec ce couple-là. Dans la Bible, quand vous dites « Tiens, il est là, lui », ben, l'autre ne doit pas être loin. C'est exactement ça. Vous allez dire de qui je parle ou de quoi je parle. Je parle de ces deux grands principes bibliques qu'on appelle la vérité et l'amour. La vérité et l'amour, ce sont deux concepts bibliques inséparables. Inséparables parce que la vérité sans l'amour n'est pas vraiment libératrice. Et l'amour sans la vérité n'est pas vraiment constructif. L'amour et la vérité s'équilibrent et se complètent, en fait. Ils ne peuvent pas se manifester l'un sans l'autre. Et bien évidemment, celui qui les réunit le plus parfaitement, c'est Jésus lui-même qui peut être appelé, comme il est appelé dans l'Apocalypse, le véritable. Et on peut l'appeler l'aimant. L'aimant est le véritable, celui qui aime parfaitement. Et celui qui est la vérité. Et ici, dans ce récit, nous retrouvons côte à côte ces deux grands principes, l'amour et la vérité. En hébreu, émet, ça donnait amen. Vous avez peut-être vu parfois que quand Jésus commençait à dire des choses importantes, il disait en vérité, je vous le dis. C'est amen, amen, en hébreu, en araméen. Et donc, c'est émet. Et puis, Chesed, on trouve ce couple-là à peu près plus de 200 fois dans l'Ancien Testament. Donc, il est très, très présent. Et bien évidemment, dans le Nouveau Testament, c'est aussi la même chose. C'est pour cela, par exemple, que Paul dira aux chrétiens d'Éphèse, il leur dira, il les appelle à dire la vérité dans l'amour, dans Éphésiens 4, 15. Et l'apôtre Jean, lui-même, lorsqu'il parle de son amour pour un frère, il dira que j'aime dans la vérité. On a le couple, les deux, qui sont très présents dans toute la Bible. Le plus difficile, bien sûr, c'est de trouver le point d'équilibre entre les deux. On a plutôt tendance à voir l'un sans l'autre. Par nature, par tempérament, les uns et les autres, nous penchons plus d'un côté que de l'autre. Et encore, des fois, ça dépend des circonstances. Mais il y a des situations, des circonstances face auxquelles, spontanément, nous allons défendre la vérité. Nous allons montrer notre attachement à des principes. Nous allons dire non. Les principes sont importants, la justice, la vérité sont des valeurs importantes et nous sommes là pour défendre. Et nous faisons de telle manière que nous pouvons le faire, bien sûr, au détriment de l'amour et de la compassion. Puis, il y a d'autres situations, alors on ne dit rien. On laisse couler. Oh, on dit, oh. On veut manifester de l'amour et de la compassion. Tant pis pour les principes, tant pis pour la vérité, mais voilà, on veut manifester l'amour. Vous savez, prenons une famille dans laquelle il y a un de ses membres qui commet une grave faute. quelque chose de très dommageable et pour la réputation de la famille, qui apporte la honte sur la famille. Donc la famille, elle doit réagir, elle doit faire quelque chose par rapport à ce membre, ce frère ou cette sœur, peu importe. Alors ils se réunissent et puis très souvent vous aurez deux camps. Vous aurez le camp de ceux qui disent « Oh là ! Après ce qu'il a fait, c'est fini avec lui. » C'est une question de principe. Vous avez vu la honte que ça nous a apportée sur la famille, alors maintenant il n'est plus question qu'on ait de contact avec lui, maintenant on le rejette pour les principes que nous défendons. Puis vous pouvez avoir de l'autre côté un autre camp qui dit « Bon non, il faut quand même lui donner une autre chance. » Vous manifestez, c'est notre frère ou c'est notre sœur, c'est un membre de notre famille, on est proche de lui, on le connaît bien, enfin il faut essayer de l'aider. Et on voit qu'il y aura une vraie difficulté hein, dans cette famille à prendre une décision, parce qu'il y aura deux camps, on ne sait pas comment harmoniser les deux, comment réunir les deux. C'est important de défendre les principes, mais c'est important aussi de manifester de l'amour. Et dans des circonstances, parfois on va pencher plus d'un côté que de l'autre. Et c'est vrai avec chacun d'entre nous. On a du mal à trouver cet équilibre. Dans ce récit, on voit Dieu qui va manifester sa justice, défendre la vérité. Mais ça va causer la mort d'un homme. Ça va tuer la fête. Et dans le même récit, on voit ce même Dieu qui va manifester aussi sa grâce et sa bénédiction. Et tout cela autour de l'arche. L'arche de l'Alliance qui était là pour symboliser la présence de Dieu. Dieu qui était présent dans le tabernacle, au-dessus de cette arche. Et l'arche, dans cette histoire, va devenir un instrument de mort et aussi un instrument de vie. Les deux. L'arche va apporter la mort, et la mort rapide, radicale. Et puis elle va apporter la vie aussi, elle va apporter la bénédiction. Et David va faire l'expérience là, une expérience qui va certainement le bouleverser, le transformer, d'un Dieu qui est à la fois un Dieu de justice et un Dieu d'amour. C'est pas par hasard qu'il va venir cet adorateur que l'on sait, cet immense adorateur. Il va réaliser un peu plus, là, ce jour-là, ou à ce moment-là, la sainteté, la vérité de Dieu, la justice de Dieu, puis aussi la grâce et l'amour de Dieu. Cela va faire de David lui-même, certainement, un homme. C'est un des rois qui va, on pourrait dire, le mieux se rapprocher de ce point d'équilibre. Ce n'est pas par hasard qu'il est connu comme le plus grand roi d'Israël. Et il va manifester dans certaines circonstances la justice de Dieu. Puis dans d'autres circonstances, il va manifester l'amour de Dieu, même à ses dépens. C'est sous cet angle-là que je voudrais qu'on regarde ce récit ce matin ensemble, cette histoire, parce que c'est aussi dans le but de nous amener les uns et les autres à mieux aller vers ce point d'équilibre dans notre vie. Parce que reconnaissons-le, on est à ce niveau-là, on est tous un peu déséquilibrés. On penche plus d'un côté que de l'autre. On a du mal, bien évidemment. Alors quand on veut défendre la vérité, on veut dire la vérité, on n'a pas toujours l'amour qui convient pour apporter cette vérité. Ou alors quand on veut aimer, qu'on veut manifester la compassion, on peut le faire facilement au détriment de certains principes. Alors vous savez, on est dans une société aujourd'hui, dans une culture. On sait de quel côté elle penche, la société. Elle penche plutôt du côté des principes ou du côté de la tolérance. Vous avez une idée ? Ça paraît évident, hein ? C'est du côté de l'amour. Faut s'aimer. Alors on aime bien le message biblique, la parole de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ouais, il faut s'aimer. Les religions sont là. Il faut que les religions s'unissent et qu'elles peu importe ce qu'elles croient, peu importe leurs principes, mais il faut qu'elles s'unissent, il faut qu'ils aiment. Et on est là prêt à tout défendre. Les comportements, les attitudes, peu importe. Il fut un temps, et dans d'autres cultures, on est plus attaché aux principes. Il fut un temps où même dans notre société française, on était attaché à des principes. On disait non, il y a des choses qui ne se font pas. On ne fait pas certaines choses. Vous voyez ? Alors on ne manifestait pas forcément beaucoup d'amour pour ceux qui pensaient différemment. Vous voyez ? C'était souvent des joutes verbales, des oppositions violentes même. On était plus attaché à ces principes, à la justice. Alors bien évidemment, si nous vivons dans ce genre de société aujourd'hui qui veut surtout manifester de l'amour, la tolérance, forcément ça nous influence. Forcément on est influencé. On ne peut pas dire le contraire. On va essayer de regarder ce récit donc sous cet angle-là. En partant d'abord de la première partie de ce récit, lorsque David va décider de ramener cette arche au centre du pays, du peuple d'Israël. C'est un acte fort que David fait, bien évidemment, à ce moment-là. Il vient de prendre la forteresse des Jébusiens pour en faire la capitale d'Israël, Jérusalem. Et il veut mettre au cœur de cette capitale, il veut mettre Dieu au cœur de cette capitale, au centre d'Israël. Donc c'est un acte fort qu'il fait, et c'est un message fort qu'il donne bien sûr à Israël. Alors pour cela, il va aller chercher l'arche de l'Alliance qui avait été un peu oubliée, pour le dire, qui se trouvait dans cette maison d'Abinadab depuis une vingtaine d'années. Il y avait eu quelques déboires, si vous connaissez un peu le début du livre de Samuel, avec l'arche qui avait été prise par les Philistins. Et ils pensaient qu'avec cela, ils allaient pouvoir obtenir un peu plus de force, de pouvoir. En fait, ils vont plus avoir des hémorroïdes qu'autre chose. Et ils vont vite ramener l'arche à son propriétaire en disant non, 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 ça nous cause pas mal de malheur. Alors, des hémorroïdes, on a tous eu, plus ou moins, mais tous en même temps, peut-être pas, non. Là, c'était le cas pour les Philistins, vous voyez. C'était tous en même temps. Là, il y avait du monde hein, chez, comment on l'appelle, le proctologue. Donc, ils ont rapporté cette arche, ils ont redonné cette arche aux Israélites et là, elle est restée un peu dans un coin. Et David va aller la chercher pour la placer à Jérusalem, à la cité de David, la nouvelle capitale pour Israël. Alors, toute la question, c'était de savoir comment ils allaient la transporter, cette arche. Alors bien évidemment, Dieu avait donné des indications à Moïse, parce que cette arche, elle a été longtemps, longtemps transportée. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, a voyagé beaucoup cette arche. Avec les Israélites, ils ont beaucoup voyagé. Donc Dieu avait dit, hey, quand vous allez voyager, vous allez transporter cette arche, mais vous la transporterez d'une certaine manière. Mais bon, tout ça, ça avait été oublié, les textes avaient été un peu perdus, oubliés. Et puis bon, avec les Philistins, eux, ils avaient eu la bonne idée, quand ils transportaient cette arche, de la mettre sur un chariot, un char, tiré par des bœufs, et puis ça se passait pas si mal que ça, en fait. Personne n'est mort. Donc ils se sont dit, pourquoi pas être moderne ? On va être moderne. On va prendre cette arche, on va la placer sur un chariot, on va la faire tirer par des bœufs, et puis il y aura ces deux frères qui vont s'en occuper. Et puis tout se passera bien. Puis effectivement, ça se passe pas si mal pendant un certain temps, jusqu'au moment où la route était un peu cabossée. Le chariot va aller un peu dans une ornière, ça va déséquilibrer le chariot et l'arche va commencer à glisser. Et là, dans un réflexe, un automatisme, enfin on peut dire, oui, il a du réflexe, hein, Uza. Il va mettre sa main dessus pour l'empêcher. L'irréparable pour lui, c'est que cette arche tombe par terre. Ça aurait été le sacrilège absolu pour lui. Et donc, il se jette sur cette arche pour la retenir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu. Vous avez vu le film qui est derrière moi ? D'accord. Et puis, pour toute récompense, hein, vous trouvez ça juste ? C'est un peu dur quand même. Quand vous faites une bonne action et que vous êtes puni, vous n'êtes pas très content. Hein. Mais là, la punition, c'est la peine de mort. Hein. C'est le châtiment capital. C'est radical. Et le texte nous dit, bien sûr, que c'est Dieu qui a fait cela. C'est Dieu qui s'est manifesté. La colère de Dieu s'enflamma contre Uza et le frappa, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. L'auteur ne nous laisse aucun doute là-dessus. Ce n'est pas une circonstance, un hasard, une crise cardiaque qui est arrivée au mauvais moment, un peu par l'émotion, tout ça. Non. C'est Dieu qui l'a frappé. C'est sa colère qui s'est enflammée contre lui et Dieu l'a frappé. Alors, je ne sais pas comment vous êtes, on est un peu mal à l'aise, là. On dit, c'est ce Dieu-là dont on va s'approcher, là ? Si on n'est pas dans les clous, ça risque de faire mal, hein ? Ça crée forcément une surprise, un choc, la peur, l'incompréhension. C'était le cas pour David, et puis tous les témoins de cette scène, bien sûr. Mais pour nous aussi qui sommes lecteurs, on est là, mais on dit, mais Seigneur, c'est dur ce que tu fais là. Enfin, les intentions de cet homme, elles étaient bonnes et louables. On ne peut pas dire qu'il avait de mauvaises intentions. Alors pourquoi une réaction si radicale ? Là, ça nous ramène devant la vérité, la justice. Dieu avait institué un culte pour les Israélites. Il avait pris soin de donner tous les détails pour l'ordre de ce culte, y compris le transport de l'arche. Il fallait que ça se passe d'une certaine manière. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Et Dieu avait été clair, si ces lois-là ne sont pas respectées, ce sera le jugement. Alors pourquoi Dieu attache autant d'importance à cela ? Comme je disais tout à l'heure, l'arche était là pour représenter la présence de Dieu. En fait, avoir cette arche, dans un sens, c'était avoir Dieu au milieu d'eux. Et Dieu, c'est ce qu'il a dit à Moïse dans le livre, et c'est ce que Moïse nous dit dans Deutéronome au chapitre 4, Dieu, quand il a donné ses lois concernant le culte du peuple d'Israël, il voulait que ça soit un témoignage pour les autres nations, que les autres nations sachent qui il est. Et notamment qu'il est très différent des autres. Et là particulièrement. Qu'est-ce qui se passe dans toutes les autres religions où il y a des divinités, des objets sacrés? D'une manière générale, dans toutes les autres religions, quand il y a une divinité représentée par une statue, dans un temple, quand il y a un objet sacré, dans toutes ces religions, qu'est-ce qu'on vous demande de faire ? On nous demande, si possible, d'aller vers cette divinité, d'aller vers cet objet, et même si vous pouvez le toucher. Et cela, vous avez ça dans toutes les religions. Alors, vous connaissez certainement ce qui se passe dans l'islam, avec la Kaaba, hein, qui se trouve à la Mecque. Donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle la Kaaba, le cube. Et à l'intérieur, il y a, sur un coin du cube, il y a une pierre noire. Et c'est une relique islamique. Et selon la tradition musulmane, cette pierre remonte à l'époque d'Adam et Ève. Alors, quand même. Donc vous avez des quantités, des millions de fidèles et d'adorateurs qui font un voyage qui leur coûte très cher pour se rapprocher au plus près de cet objet, de cette relique. Et si possible, je ne sais pas si c'est possible pour tout le monde, mais si possible de la toucher. Et plus vous la touchez, plus vous êtes béni, vous voyez. Si vous arrivez à toucher dans d'autres religions la divinité, vous voyez ces gens, et malheureusement, même dans le christianisme, on fait la même chose avec les reliques. On le voit quand vous allez au Saint-Sépulcre, par exemple, c'est assez impressionnant, à Jérusalem. Donc on prend son mouchoir et puis on... Ben oui, c'est comme ça qu'on fait. C'est ce qu'on vous recommande de faire. On vous dit, mais il faut s'approcher. Vous pouvez vous approcher de Dieu. Vous pouvez. Alors, il faut faire des choses, bien sûr. Vous fassiez des choses. Il faut vous payer un voyage. Il faut faire suivre des rites, respecter des cérémonies. Enfin, il faut faire des choses. Mais vous pouvez vous approcher de Dieu. Et là, Dieu dit aux Israélites, ça avec moi, vous ne le ferez pas. Ça, avec moi, vous ne le ferez pas. Je suis dans ce sens inaccessible pour l'homme. Il y a un tel fossé entre vous et moi que vous ne pouvez pas vous approcher de moi. Et là, avec cette arche qui va me représenter, s'il y en a un d'entre vous qui touche cette arche, c'est fini. Vous voyez le message ? C'est le cœur même de l'Évangile, ça. Le cœur de l'Évangile, c'est ça, c'est que partout ailleurs, on dit, ben, voilà, pour s'approcher de Dieu, on peut faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a quelque chose à faire. On va faire des œuvres, on va accomplir des œuvres, on va donner de l'argent, on va faire des bonnes œuvres, on va faire quelque chose. Et on va pouvoir toucher Dieu et s'approcher de Dieu. Et Dieu dit non. En Évangile, non. Il dit, c'est pas vous qui vous approchez de moi, c'est moi qui vais m'approcher de vous. C'est moi qui viens. C'est ce message-là qui est le cœur même de l'Évangile. Donc, ce n'était pas une question simplement de coffre qui était touché et une sorte d'hypersensibilité divine qui ne supporte pas ce genre de choses. Ça allait beaucoup plus loin que cela. En fait, si on est choqué, on est scandalisé par cela, ça montre une chose, c'est qu'on ne sait pas qui est Dieu. Et on ne sait pas ce qu'est sa justice. Parce que vous savez, en réalité, il y a eu un mort. Mais si Dieu avait voulu aller jusqu'au bout, ce n'est pas un mort, c'est 30 000. Ils étaient 30 000 ce jour-là. Et David le premier. Donc le fait qu'il n'y ait eu qu'un mort, c'est déjà la grâce de Dieu. Uzza, lui, pensait, dans sa conception des choses, il pensait que si l'arche touchait la terre, celle-ci serait souillée par la terre. Donc, on retenait l'arche d'être souillée. Mais il ne réalisait pas une chose, c'est que lui, il était plus souillé que la terre. La terre, d'une certaine manière, a fait exactement ce que Dieu lui demande de faire, vous savez. Vous mettez des graines, hein ? Monsieur Houdin, c'est bien ça ? Et vous arrosez, et puis à la terre, elle va donner, elle. Des fleurs, des plantes, des fruits. Avec l'homme, c'est pas ça. Hein. Donc en fait, Uzza, ce qu'il ne réalisait pas, c'est à quel point il était souillé. Il pensait, lui, qu'il était plus pur que la terre. Et Dieu dit, non, c'est toi qui es plus impur que la terre. Et tu ne peux pas toucher cette arche parce que tu es souillé. C'est ce que Dieu a voulu montrer aussi. Uzza a pensé aussi que Dieu, en fait, en retenant cette arche, il a pensé que Dieu pouvait avoir besoin de lui. Après, il a dit, vous savez, heureusement j'étais là. Quand même, j'ai sauvé l'arche d'une grande catastrophe. Si elle était tombée par terre, vous vous rendez compte? On peut facilement avoir ce sentiment que Dieu a besoin de nous. On prie même, quand on prie, on dit, oui, Seigneur, mais un peu ce que je suis capable de faire pour toi. Vous savez, Abraham a connu ça, quand Dieu lui a donné la promesse de ce fils, quand les choses ne s'accomplissaient pas, on va donner un petit coup de main à Dieu. Et ça donnait un fils qui s'appelait Ismaël. Le caractère unique de Dieu est encore présent ici, dans ce texte, dans ce récit. Et David en a fait l'expérience. David, au travers de ce drame, de cette tragédie, il a certainement réalisé un peu plus que Dieu était beaucoup plus saint qu'il le pensait et que lui était beaucoup plus impur qu'il le pensait. Mais juste à côté, juste après, cette arche qui va donner la mort, elle va, dans le même récit, donner la vie. Alors, on sait de quel côté on a envie d'aller, Le même récit, et ça dérange pas l'auteur, ça, vous voyez. Ça dérange pas Dieu, même, puisque c'est Dieu qui fait ça. D'un côté, il frappe un homme parce qu'il n'a pas respecté la loi. Puis de l'autre côté, il va bénir un homme. Ah, bien évidemment, ce drame, il va un peu tuer la fête, ça c'est sûr. Les musiciens, ils ont plié leurs instruments, ils les ont rangés, et puis terminé. Chacun est rentré chez soi, la tête basse. Et puis le projet de mettre cette arche à Jérusalem, au centre du pays, bon, voilà, on allait voir un peu ce qu'on allait faire. C'était en tout cas annulé pour un temps. Mais en même temps, la question qu'ils ont dû se poser, c'est chez qui on va bien l'envoyer cette arche maintenant? Il y a un volontaire? Il y a quelqu'un qui voudrait? Après ce qui venait de se passer, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un volontaire? Personne. Alors qu'est-ce que David a fait? Il a dit, toi, t'es un volontaire. L'arche va aller chez toi. Oui, vous savez, l'heureux gagnant s'appelle Obed-Edom. Obed-Edom. Quelle idée quand même d'avoir été là ce jour-là. Il a dû se dire, lui, à la fin de la journée, dire, mais j'aurais dû rester chez moi. Maintenant, c'est moi qui vais garder cette arche. Cette arche va... Parce que forcément, il n'y avait pas de volontaire, vous imaginez. Après ce qui s'était passé, ils se sont dit, mais si... On ne fait pas tout à fait ce qu'il faut faire. Nous, on ne connaît pas, on n'a pas le manuel, on ne sait pas trop. Et boum, ça va être nous, peut-être la famille entière, enfin. Ça va être catastrophique. Donc, on a le sentiment, quand on lit ce récit, qu'il n'y avait pas de volontaire. Donc, il nous est dit, dans les deux récits, un parallèle de Chronique et de Samuel, que c'est David qui a fait conduire cette arche chez Obed-Edom. C'est-à-dire de dire, voilà. C'est chez toi maintenant, tu gardes l'arche. Bon courage. Non? Et c'était le roi, il n'avait rien à dire de toute façon. Et il semblerait que Obed-Edom, ça n'était pas un juif, ça n'était pas un israélite. Obed veut dire serviteur, serviteur d'Edom, Edom, un peuple, les Édomites, serviteur d'Edom. Alors, il y a beaucoup de débats entre les spécialistes autour de cela, parce qu'on retrouve Obed-Edom après dans des listes de lévites qui vont être qui vont servir du temps de David. Alors, est-ce que c'est le même ? Est-ce que là, il y a beaucoup. Enfin, il y a quand même une grande partie qui pense que c'était un étranger et que c'était un peu pratique pour David. Il dit, écoute, toi, t'es un étranger. Avec les Philistins, ça s'était pas trop mal passé. Il n'avait eu que des hémorroïdes. Au pire, t'auras peut-être ça, toi. Donc, écoute, tu prends l'arche et on verra bien. On a autre chose à faire pour l'instant. Ouais, c'est comme quand, je sais pas, si vous avez un produit toxique, là, vous voulez pas le mettre chez vous, vous allez chez le voisin. Allez, discrètement. Ça semble un peu ça. Quand on lit le récit, ça ressemble à ça. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis ce jour-là, ils sont rentrés chez eux, ils se sont dit « Oh là là !» Ils ont eu pitié de cet homme. Hein. Ils ont dû se dire « Mais qu'est-ce qui va se passer hein ?» On va peut-être apprendre de tristes nouvelles dans les jours, dans les mois qui viennent. Et puis le texte nous dit que l'arche est restée 3 mois et que Obed-Edom et sa famille, ils ont été bénis. Alors comment ils ont été bénis, le texte ne dit pas. Mais bon, ça devait être visible quand même. Ça devait être une vraie différence. La bénédiction de Dieu. Et tout le monde a pu comprendre que cette bénédiction de Dieu, pendant ces 3 mois, elle était liée directement à la présence de l'arche. Parce que du jour où cette arche est arrivée chez cet homme, il y avait une bénédiction. Dans sa vie, on peut tout imaginer. Hein. Est-ce qu'il y avait un malade qui était en train de mourir ? Un coup, lui, il va guérir. Phase terminale, on dit, il n'y a plus rien à faire. L'arche arrive, le lendemain, il revit. Vous voyez, le genre de bénédiction, le texte ne le dit pas, mais ça pouvait être ce genre-là. Peut-être matérielle, financière ou autre. Enfin, il y a eu suffisamment de preuves et de signes pour dire que la bénédiction qui avait apporté la mort quelque temps auparavant, ici, dans cette maison, avait apporté la vie. Alors, quand David va entendre ça, et c'est justement dans le texte, il nous est dit que David, on vint dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Voilà, on dira, tu te rends compte. Et David s'est dit, on est peut-être en train de passer à côté de quelque chose là. Il va se mettre en route, c'est juste après, il nous dit, David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Edom jusqu'à la cité de David. Ça vraiment, on semble que c'était un élément déclencheur. David a dû certainement étudier les textes, revenir sur la loi de Moïse pour le transport de l'arche et se dire, voilà, comment il faut faire. Il fallait effectivement des prêtres, des hommes qui avaient été désignés par Dieu pour transporter cette arche, etc. Elle ne pouvait pas être portée sur un chariot. Il fallait qu'elle soit portée sur les épaules par, par 4 hommes. On vous a montré la photo de l'arche et à quoi elle ressemblait. Il y avait les anneaux qui étaient de chaque côté, avec donc des barres qui permettaient à 4 hommes de porter cette arche. Et il fallait qu'elle soit recouverte aussi. Et ça ne semble pas que ça a été le cas ce jour-là en plus. Donc c'est de cette manière-là que Dieu avait dit « Je veux que cette arche soit transportée et que personne ne la voit, que personne ne la touche. » Là, apparemment, tout le monde pouvait la voir et même certains l'ont touchée. David a replongé dans la loi de Dieu pour savoir comment il fallait faire. Et après trois mois d'études, de réflexion, de préparation, il va faire venir cette arche exactement comme Dieu l'avait indiqué. Mais là, il va mettre les grands moyens. Entre Kirjat Jearim, là où l'arche est partie au départ, il y avait à peu près une 15 kilomètres, donc ils avaient avancé un peu, certainement, il y en avait moins, en direction de Jérusalem. Donc, il y avait quand même quelques kilomètres. Et le texte nous dit que tous les six pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça tombe surtout à Huguette, tiens. Il sacrifiait un veau gras et un bœuf. C'était pas la fête des bœufs, là. Et les veaux, ou c'était leur fête. Vous imaginez les précautions que David a pu prendre à ce moment-là. Il s'est dit, oh là là, on va mettre tous les atouts de notre côté. Hein. Cette arche, il faut qu'elle arrive à Jérusalem sans faire d'autres dégâts comme c'était le cas avant. Et donc, il va prendre... Ah, ça a dû prendre du temps. Hein. Et ça a dû coûter de l'argent. Et c'est comme ça que cette arche, elle est arrivée à Jérusalem. Et David va, on peut dire, exploser de joie devant ce qu'il venait de vivre. L'arche sur la route. Dans le récit, on voit la vérité et la grâce ou l'amour côte à côte. La vérité, la justice au moment où Uzza est frappé, et puis la grâce, parce que ça tombait en plus probablement sur une famille étrangère, vous voyez. Et Dieu ne faisait pas de différence entre un bon peuple et un mauvais peuple. Hein. Tous sont pécheurs. Et cette famille d'Obed-Edom, même s'ils n'ont pas forcément respecté tout ce qu'il fallait respecter, Dieu leur a fait grâce et Dieu les a bénis. Donc côte à côte dans ce récit, on a la justice, on a la vérité et l'amour. Mais au moment où David a fait cette procession pour amener cette arche jusqu'à Jérusalem, au travers de ces sacrifices répétitifs, tous les six pas, c'était à la fois la justice de Dieu et l'amour de Dieu, la grâce de Dieu dans ces sacrifices. Les sacrifices étaient là pour rappeler qu'ils étaient pécheurs et que Dieu leur faisait grâce. Et s'ils vivaient, c'est parce que quelqu'un d'autre avait payé pour eux. C'était ça le principe. Et on peut penser que cette expérience-là, elle a quand même énormément bouleversé David, transformé, même si c'était déjà avant un adorateur, même si déjà dans la première partie, ils avaient commencé cette procession et il y avait les instrumentistes, ils étaient là à danser devant Dieu. Le texte ne dit pas dans Samuel, mais dans Chronique. Donc, ils étaient déjà dans cette joie, mais je pense qu'ils sont passés à une nouvelle dimension. Et David en particulier dans l'adoration. Au travers de cette expérience, David a réalisé un peu plus à quel point le mal était attaché à lui. Et puis, et de ce fait, il méritait la condamnation ou la mort. Mais aussi à quel point Dieu l'aimait. Et c'est pour ça que Dieu le sauvait. C'est ce que nous avons certainement réalisé les uns et les autres. Si nous sommes ici ce matin, pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a réalisé. On a réalisé que le mal était en nous et que Dieu nous a fait grâce. Ça, mais plus nous allons réaliser que le mal est attaché à nous, plus nous allons apprécier la grâce de Dieu, en fait. Et plus cette appréciation de la grâce de Dieu va nous amener à la reconnaissance ou à la louange ou à l'adoration, comme ça a été le cas pour David à ce moment-là. C'est l'expérience qu'il a faite et comme je disais, David a été remarquable dans son règne en manifestant à la fois l'attachement à la justice de Dieu, mais aussi à l'amour de Dieu. Quand on voit ce qu'il a fait pour Mephibosheth, par exemple, hein, qui était dans le camp des ennemis, et comment il a respecté sa parole à Jonathan et comment il a accueilli cet infirme qui était du camp ennemi à sa propre table pour qu'il soit tous les jours à sa table. La grâce dont il a fait l'objet. Ce Mephibosheth par David, on voit à quel point David réunissait les deux, la justice et l'amour. Alors certainement jamais parfaitement équilibré, comme pour tout être humain, mais certainement présent. pour voir le parfait équilibre entre les deux, c'est Christ, bien évidemment. Avec Christ, il y avait l'attachement à la justice, à la vérité, et puis la manifestation de l'amour et de la grâce. Les deux étaient réunis. Et plus nous allons comprendre, comme David, que nous sommes plus mauvais encore que ce que l'on pensait. Et chaque fois qu'on est face à l'Évangile, c'est ce que l'Évangile nous amène à réaliser. On est encore plus mauvais que ce qu'on pensait. Le mal est tellement en profondeur en nous. Et on en est désolé, on sait à quel point on est loin de Dieu, par nous-mêmes, par nature. Quand on réalise cela et en même temps on réalise ce que Dieu a fait pour nous accepter, pour nous sauver, pour nous pardonner, bien évidemment, il ne peut y avoir qu'une seule explosion, c'est l'explosion de joie et d'adoration que l'on voit dans ce texte. Malheureusement, tout le monde n'a pas pu se réjouir ce jour-là. Et quelqu'un qui était très proche de David, sa propre femme. Ce récit se termine sur une note triste, très triste. On voit l'attitude de Michal. Michal a été là à la fenêtre quand David est arrivé dans la cité. Elle a vu son comportement. Elle a été outrée. Elle a méprisé David. Parce qu'elle avait une conception de la royauté. Bien sûr, elle était une fille de roi. Elle était l'une des filles de Saül. Elle avait grandi dans un palais. Elle connaissait le protocole et particulièrement dans cette culture basée sur l'honneur. La dignité, c'est tout ce qu'il y a de plus important. Et la dignité d'un roi, alors. Et donc le roi, lui, doit garder sa distance par rapport aux autres. Il est au-dessus des autres. Il ne doit pas faire n'importe quoi. Et là, pour elle, David faisait n'importe quoi. Il gesticulait, il dansait pas, il gesticulait. C'était la honte. En fait, parce qu'en étant l'épouse même de David, cette honte, elle rejaillissait sur elle-même. C'était elle qui avait honte, en fait. C'était elle qui avait honte. Parce que disait, moi, je suis la femme du roi, et puis regardez ce qu'il est en train de faire. Comment on va me considérer, moi, maintenant? Il y avait une grande différence entre David et Michal. David va lui dire, où elle est, là, cette différence? Il lui dira, tu sais, rappelle-toi d'une chose. C'est que si je suis là où je suis, c'est parce que j'ai été choisi par Dieu. David, il n'a pas fait la politique pour devenir un roi. Il n'a pas pratiqué ce que les hommes politiques font en général, vous savez. On dit que pour être un bon politique, il faut être un tueur. En démocratie, on tue les concurrents politiquement, vous voyez ce que je veux dire? On ternit leur réputation, on les met. En dictature, on les tue physiquement. Mais David n'a jamais fait ça. Il aurait pu le faire. Il aurait pu le faire avec Saül, il ne l'a jamais fait. Il a eu même des circonstances où il n'avait plus qu'à prendre son arme et à tuer Saül. Il ne l'a jamais fait, jamais fait. Et il se rappelait de cela et il le dira à sa femme, Michal, il dira, tu sais, si je suis là, c'est parce que j'ai été choisi. Alors effectivement, je suis au-dessus du peuple, je suis le roi, je suis l'autorité, je suis le premier israélite, oui, dans ce sens-là. Mais moi, je me rappelle toujours, je me souviens toujours d'une chose, c'est qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Au-dessus de moi. Elle l'avait oublié, ça. David ne l'avait pas oublié. Et il dit, ce quelqu'un au-dessus de moi, il m'a choisi. Et voilà. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pas parce que je suis meilleur que les autres. Moi, j'étais le petit berger, là, dans les montagnes de Juda. C'est là que Dieu est venu me chercher. Pour faire ce que je suis. Ce n'est pas parce que je suis meilleur et plus fort que les autres, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Et il savait à quel point David, lui, ne méritait rien. Et il était l'objet de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça, il dit, mais même devant mes sujets, les servantes, là, il dit, mais aux yeux de Dieu, mais je suis comme ces gens-là. Je ne suis pas meilleur qu'eux. David révèle comment Dieu avait fait une œuvre en profondeur. Et on comprend quand on lit ce genre de récit que ce que la Bible dit quand elle parle de David un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Ça se voit là et dans beaucoup d'autres récits. On ne pourrait pas dire ça, la même chose de Michal. Une femme selon le cœur de Dieu. Alors Michal, elle va subir certainement le plus terrible jugement qui pouvait tomber sur une femme, particulièrement à cette époque, c'est ne pas avoir d'enfant, d'être stérile. On aurait pu penser qu'une femme comme Michal, elle aurait pu devenir et aller dans la lignée messianique. Vous savez que ça n'a pas été elle, bien sûr. Et vous savez qui ça a été ? Bathsheba, la femme adultère. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça. Plaçons-nous devant Dieu pendant quelques instants pour lui demander de réaliser un peu plus d'où nous venons, là où il est allé nous chercher. Et pour certains, c'est très frais encore et nous savons comment Dieu est allé nous chercher et là où il nous a pris. Et nous réalisons de plus en plus à quel point que malgré l'iniquité qui est attachée à notre cœur, à notre âme, il nous a aimés au travers de Christ et la mort sur la croix se trouve réunis, parfaitement réunis, la justice et l'amour. Et nous sommes ses bénéficiaires aujourd'hui même. Seigneur, nous sommes comme David ce matin, Seigneur. Et nous souvenons que c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as appelés, Seigneur. Nous n'étions pas meilleurs que les autres, loin de là, Seigneur. Et nous réalisons de plus en plus, effectivement, que le mal est attaché, était attaché à nous, Seigneur, quand tu es venu nous chercher. C'est toi qui es venu, Seigneur. C'est toi qui nous as relevés, c'est toi qui nous as rétablis. Alors forcément, aujourd'hui, nous pouvons aussi manifester cet attachement à la vérité et cet amour pour les autres. Seigneur, donne-nous dans les circonstances, et peut-être que certains vivent en ce moment, de pouvoir aimer tout en respectant la vérité et de pouvoir rappeler la vérité tout en aimant. Donne-nous d'aller et de poindre vers cet équilibre dans nos réactions, dans nos attitudes. Aide-nous, Seigneur, dans les paroles que nous devons dire. Si elles sont là pour rappeler des principes, qu'elles ne soient pas dures et tranchantes, pour blesser, pour détruire, mais qu'elles soient faites et dites dans l'amour, pour réparer, pour reconstruire. Quand nous voulons manifester cet amour pour ceux qui sont autour de nous, que ça ne soit jamais au détriment des principes et de la vérité. Aide-nous là où nous avons besoin ce matin. Nous penchons tous d'un côté ou d'un autre et nous avons besoin que tu rétablisses l'équilibre par rapport à certaines circonstances que certains vivent en ce moment, Seigneur. Tu leur donnes d'aller vers cet équilibre. S'ils ont besoin de cet amour, Seigneur, que tu puisses leur donner cet amour. S'ils ont besoin de cette vérité, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, avoir cette vérité, cet attachement à la vérité. Aide-nous, Seigneur, ainsi à te ressembler. Et ensemble te louer, Seigneur. Nous voulons ensemble t'adorer pour l'œuvre que tu as faite. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur.